Il y en a encore beaucoup d'autres. On peut dire Böhme, mais à Jacob Böhme, non. Il ne connaissait pas les mystères, mais il a trouvé intuitivement, par ses visions, par son intuition, il a trouvé beaucoup de grandes vérités et qui correspondent à cette initiation. Par exemple, Emerson, ou encore il y en a d'autres aussi, Waldo Trein, un Américain, ce sont des mystiques. Moi, j'ai jeté un regard sur tous ces mystiques-là. Et ce que j'ai trouvé chez Emerson, oh là là, ça, alors, moi, je peux dire qu'Emerson a joué un rôle exceptionnel dans ma vie. Parce que quand j'étais très jeune, en Bulgarie, j'étais, oui, 15-16 ans. Il me tombait dans la main une brochure seulement, sur l'âme supérieure. Il avait écrit une brochure sur l'âme supérieure. Si vous voulez, le moi divin. C'était traduit là. L'âme sublime, l'âme supérieure. Ça a produit sûrement un tel effet comme jamais. Voilà. Il y avait encore un autre livre qu'on peut égaler. Mais alors, j'ai perdu la tête. Influencé par ces grandes vérités de cette âme sublime que l'homme possédait, j'ai fait un travail gigantesque, des mois et des années. Et voilà que Emerson m'a apporté énormément. Oui. Pour vous dire que ces grandes vérités, on les trouve par-ci, par-là, mais pas d'une façon tellement réunie, tellement en commun, comme ça, comme maintenant, je vais vous présenter, pour avoir une idée. Maintenant, pour que beaucoup de choses s'éclaircissent dans votre tête, pour que vous puissiez avoir une mesure, des critères, pour savoir comment penser, comment agir, où sont les humains, où vous êtes. Alors, je commence. Tout d'abord, celui qui était embrasé par un amour vers la vérité, à tout prix, il voulait la connaître. Alors, il trouvait au moins un initié en Égypte, pour le conduire jusqu'à la grande pyramide de Khéops. Et là, on montait jusqu'à la 16e division, 16e assise, ça s'appelle, où il avait une fenêtre toujours ouverte, jamais fermée. Et cette fenêtre était longue et large, un carré de 3 pieds. 3 pieds, ça veut dire 1 mètre, n'est-ce pas? C'est une mesure anglaise. Donc, 1 mètre carré, et par lequel fenêtre on entrait, voilà, avec l'initié. Et on s'engageait dans un couloir tellement étroit, tellement voûté, tellement humide, tellement sombre et froid, qu'on commençait déjà à avoir des frissons. Et pourquoi c'était vers le nord, cette fenêtre? Parce que c'était le symbole du froid, de l'ignorance et des ténèbres. C'est par là qu'on devait entrer pour aller maintenant vers la lumière. Et en s'engageant maintenant sur un couloir étroit, très voûté et long, avec des détours, avec à gauche, à droite, en s'abaissant, en rampant, Alors, on arrivait jusqu'à un endroit, c'était un puits, une ouverture d'un puits enduit par un asphalte, très lisse, noir, d'où il sortait une fumée épaisse. Et alors, on ne voyait pas même qu'il y avait des escaliers en fer. Et l'initié entrait le premier et commençait à descendre. Et l'autre le suivait, le récipiendaire, le candidat, le suivait en silence, dans cette obscurité. Seulement, j'ai oublié de vous dire qu'ils avaient des lampes. Ils étaient munis de lampes pour s'éclairer. Et ainsi, 60 degrés descente, 60 marches comme ça. Mais de nouveau, ils découvraient, en s'avançant comme ça, avec des détours, ils découvraient dans le mur de granit percé un trou. C'était une porte ouverte, une entrée. Alors ils s'engagent. Avec beaucoup de difficultés, de détours, d'allaitements. Oui. On arrivait jusqu'à une porte en deux battants. À une porte d'arène à deux battants. Alors là, l'initié s'arrêtait et il disait, voilà, je n'ai pas le droit de vous suivre plus loin. Vous serez tout seul. Et étant donné que le chemin est très difficile, très risqué, la mort peut s'en suivre, alors il faut faire votre testament. Et il l'obligeait à écrire son testament. Et l'initié partait. Et lui, il était étonné de voir que la porte s'ouvrait toute seule, sans bruit. Et quand il entrait, elle se refermait avec un bruit, avec une résonance, mais alors dans ce souterrain, c'était affreux. Et ça annonçait au prêtre initié quelque part qu'un fou ou un détraqué ou un audacieux entreprenait d'aller chercher la vérité. Et commence maintenant tout seul. Ah, oh là là, ça c'était un couloir, mais alors bizarre. De deux côtés, trop bas. De deux côtés, il y avait des trous, des niches, dans lesquelles il y avait des statues. Beaucoup de statues, tout le long. Mais alors, avec des visages, avec des expressions, avec des gestes, et avec la lumière seulement qui l'éclairait, ils étaient menaçants, ils étaient terrifiants, ils étaient affreux. Et oui, mais ils devaient marcher, puisqu'ils devaient braver tous les dangers, dangers de mort même. Ils continuaient, ils s'avançaient, et à la fin, ils débouchaient un endroit, j'ai oublié de vous dire qu'il pensait déjà que c'était ces statues, c'était des âmes de l'autre monde qui étaient là pour l'effrayer. Des âmes très passées. Mais il se retenait, il dominait sa peur, il continuait quand même. Il arrivait à un endroit où il avait une porte qui était gardée par trois personnes, trois hommes, armés avec des épées, et un casque avec des casques, avec la forme de chacal, effrayé. Alors, une de ces trois se jetait sur lui, prendre sur la gorge, en lui disant, si tu oses, tu peux entrer à travers cette porte. Mais attention, Si tu dois retourner, on ne te laissera plus sortir. Tu seras esclave dans le temple. C'est fini avec toi. Tu peux aller, mais tu ne peux jamais retourner en arrière. Ils sont là jour et nuit pour garder cette porte. Et si lui décidait quand même, alors là, il s'inclinait, il le laissait entrer à travers cette porte. Et voilà que c'était une salle éclairée, une centaine de mètres de long et de large, éclairé par deux bûchers, mais alors un feu qui brûlait. Et c'était par des branches, trois sortes de branches qui existent en Égypte. Les premières branches s'appellent baume arabique. Les deuxièmes, épines d'Égypte. Et les troisièmes, je ne me souviens pas comment ça s'appelait. Peut-être ça me vient dans la tête. Et comme c'était des branches, des arbustes très odoriférantes, très inflammables, alors là, il devait passer maintenant à travers le feu. Et comme c'était les deux flammes qui se joignaient en haut sur le plafond, jusqu'à sa tête, il devait passer. Et s'il réussissait à passer, il continuait plus loin. C'était une cascade, c'était un torrent de l'eau qui venait de Nil. Il devait le parcourir maintenant. Alors il se déshabillait, il pliait ses vêtements, il les mettait sur sa tête et la lampe au-dessus, il s'engageait dans l'eau. Jusqu'à éclairer l'autre rive. Et quand il arrivait jusqu'à l'autre rive, qu'est-ce qu'il voyait? Il avait eu une arcade, haute arcade, et avec une planche, avec un palier. Et alors il commençait à s'agripper, monter. Il réussissait, mais il ne voyait pas les engrenages, les appareils qui étaient au-dessus. Il voyait seulement une porte d'ivoire et il faisait tous ses efforts pour pénétrer, pour la faire. Hein, et elle était résistante. Elle était entourée avec un filet en or et les machineries qui étaient au-dessus ne les voyaient pas. Et comme il ne pouvait pas franchir cette porte, elle était très loin, il voyait à peine, il voyait que deux petits anneaux qui descendaient, de l'anneau métallique qui brillait, et il s'est accroché sur ces deux anneaux, et voilà que le plancher a disparu devant ses pieds, s'est dérobé, et il était suspendu dans un abîme. D'où il sortait un vent tumultueux, un froid glacial et un bruit terrifiant. Et il était suspendu comme ça. Oh là là! Et il était glacé, c'était terrible. Et voilà que les deux anneaux descendaient lentement, doucement, après quelques